Il marche celui-là ?
Ah, bonjour tout le monde. Je m'installe, d'habitude. Je propose de commencer par prier déjà pour remettre ce temps et inviter Dieu parmi nous. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous au quotidien. Je te remercie pour ta parole que tu nous as donnée et ce temps que tu nous permets de prendre pour pouvoir nous instruire. Je te prie de nous envoyer ton esprit pour qu'on puisse comprendre, grandir et avancer avec toi. Amen. Et Seigneur, je te remets aussi la technique parce que ce matin, c'était compliqué. Il est 11h20. Bon, vous me faites signe, je ne serai pas d'être trop long. Je sais que le culte était... Il y a beaucoup de choses qui ont pu être partagées. Ça tombe bien, mais j'ai plein de choses à dire aussi. Donc, Attends que ça vienne. En attendant, ce que je vous propose déjà de savoir, c'est que je vais vous parler du livre de Josué. Et le titre de cette méditation, je l'ai appelé « À la conquête de la terre promise ». Si je vous résume un peu le livre de Josué, c'est un récit de conquête. Celle du peuple d'Israël qui se saisit enfin de sa terre promise, la terre que Dieu a promis. Au début, il y a beaucoup de récits de conquête, notamment avec la célèbre prise de Jéricho. Ensuite, il y a le partage de cette terre promise et les différentes tribus en prennent possession. Et comme toute bonne histoire, elle commence au chapitre 1. Donc, Josué 1, et je vais vous lire les versets 1 à 9. Josué, successeur de Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon. Car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'y appliquer tout ce qui est écrit. Car alors, tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Dans ce chapitre 1, Dieu se révèle à Josué. Moïse vient de mourir, et c'est Josué qui prend sa suite. Et ce qui est bon signe, c'est que Dieu vient lui parler. Donc il valide le fait que ce soit Josué qui prend la suite, et il lui rappelle la mission. Ils sont aux portes de la terre promise, ils sont d'un côté du Jourdain, ils ont besoin de le traverser pour pouvoir en prendre possession. Et l'Éternel lui confirme cette mission en disant « Traverse le Jourdain et va conquérir Canaan. » Et il rappelle que c'est une promesse que Dieu même a faite à ses ancêtres et que ce territoire leur appartient. Et il ajoute une promesse supplémentaire. « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Et ensuite, au verset 6, 7 et 9, il accentue cette promesse. Il l'encourage Josué par trois fois, avec toujours cette même forme, « Prends courage et tiens bon. Et il insiste bien dessus. La première fois, il dit « prends courage et tiens bon ». La deuxième fois, il dit « simplement, prends courage et tiens bon ». Et il leur insiste une troisième fois, « je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon ». Et pourquoi insister autant sur cette partie-là ? Peut-être que le message, il parle particulièrement à Josué, parce que l'histoire de Josué est particulière. Et pour la comprendre, il faut remonter 40 ans plus tôt. Il faut remonter 40 ans plus tôt pour la comprendre. Le peuple sort d'Égypte, ça je pense que vous connaissez, c'est assez connu dans la Bible, la sortie miraculeuse qu'ils font, ils traversent la mer Rouge. Ensuite, c'est comme une espèce de camp biblique itinérant, où Dieu va se révéler à son peuple, il va marcher devant eux dans une colonne de nuée ou de feu, il va transmettre ses commandements, il va transmettre à Moïse toute la loi et tous les préceptes qu'ils vont devoir apprendre et appliquer. Et ils se dirigent tout doucement vers la terre promise. Ils avancent de bons pas. Et un jour, ils se trouvent devant la terre promise. Au bout d'un an à marcher, ils sont déjà aux portes de la terre promise. Et donc, vous suivez juste la flèche rouge. C'est juste avant la petite flèche bleue ici. Et devant cette porte, ils disent « bon, on va envoyer quelques espions » pour voir à quoi ressemble cette terre promise et préparer l'invasion. Et ça, ce récit, on va le trouver dans Nombre 13. Donc je vous refais une lecture de Nombre 13. L'exploration du pays de Canaan. Au verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » Je passe jusqu'au verset 17 où finalement on liste les 12 personnes qui vont être envoyées. Donc verset 17, « Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan en leur disant « Passez par le Négev, gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre? Y trouve-t-on des arbres ou non? Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. » Parmi ces personnes, les 12 qui sont envoyées, il y a Josué. Ils y vont pendant 40 jours et ils viennent faire leur rapport, et je vous reprends la lecture au verset 27. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. » Oui. C'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici des fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont immenses. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Précision, c'est des descendants de géants. Verset 29. Les Amalécites occupent la région de Négev. Les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens tiennent la montagne. Et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Alors Caleb, précision, c'était un des envoyés, un des espions, essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Je continue au verset 31. « Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple. » car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons vu même des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles, et c'est bien l'effet que nous leur faisions. » Et donc, que s'est-il passé 40 ans plus tôt ? Donc 12 espions sont partis, dont Caleb, dont on a vu dans ce récit, et Josué, qui est cité dans les versets que j'ai passés. Et ils ont vraiment vu que cette terre promise a été vraiment, vraiment spéciale. Ils disent vraiment que c'est l'endroit où coule le lait et le miel. Et il y a un passage, dans Nombre 13 au verset 23, où ils expliquent qu'ils ont trouvé une grappe de raisin si grosse qu'il devait être à deux pour la porter, tenu par une perche. Et c'est l'image que je vous affiche ici. Ils disent vraiment que c'est un pays merveilleux. Et ça, ils le racontent à Moïse. Mais ils comprennent aussi que le pays est très bien occupé, fortifié, et qu'il faudra le conquérir. Et là, à ce moment-là, il y a clairement deux groupes qui se forment. D'un côté, il y a le peuple et 10 des 12 espions qui commencent à avoir peur et perdre confiance. Et ils disent « Non, on ne veut pas y aller, nous, on est très bien ici, on est peut-être dans un désert, mais au moins on est tranquille. » Et ils le précisent en Nombre 14, verset 3, « Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée ?» Ils ont clairement peur. Et de l'autre côté, il y a seulement deux personnes qui s'opposent à cette pensée, Caleb et Josué, qui gardent confiance en l'Éternel et qui précisent à Nombre 14, verset 8, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. » Et comme d'habitude, c'est toujours le même problème quand on voit le peuple en Exode. Ils racontent toujours « c'était mieux avant, quand on était en Égypte ». On pourrait presque dire que c'est un ado qui n'arrête pas de râler. Et ici, c'est clairement ça. Encore une fois, le peuple se rebelle contre Dieu en disant « oh, on ne veut vraiment pas aller là-bas ». Et donc, conclusion, chose que vous connaissez normalement, que s'est-il passé pendant 40 ans ? Eh bien, le peuple s'est fâché contre Dieu, plutôt Dieu s'est fâché contre son peuple, et l'a puni pour son manque de confiance. Nombre 14, verset 34, « Vous avez mis 40 jours à reconnaître le pays, eh bien vous porterez les conséquences de vos fautes durant 40 ans, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce qu'il en coûte de m'abandonner. » Dit comme ça, ça paraît sévère. Ce que le texte précise un peu plus loin, c'est que ça fait la 10e fois, en l'espace d'un an, que le peuple se rebelle contre Dieu. Et là où l'Éternel envoyait 12 espions pour montrer à quel point le pays était magnifique, ils se sont un peu comportés comme un satisfait ou remboursé, et quand ils ont vu que finalement il fallait un peu travailler pour prendre ce pays, ils ont préféré se faire rembourser et retourner en Égypte. Et Dieu n'a pas vraiment apprécié ça. Et pour rappel, dans cette partie-là, c'est un peuple où ça fait un an qui suit Dieu, étant présentement visible comme une colonne de nuée ou une colonne de feu. C'est un Dieu qui a fait les 10 plaies d'Égypte, qui a ouvert la mer Rouge en deux, qui les nourrit chaque jour avec de la manne et des cailles. On peut clairement voir que Dieu les aime, les chouchoute, et pourtant, ils se comportent quand même comme des enfants gâtés. Et donc, la punition est d'autant plus sévère. Toute une génération va mourir dans le désert, sans voir la terre promise, et ce sera la génération d'après qui va la découvrir. Tout le monde, sauf deux personnes, Caleb et Josué, qui eux ont fait confiance. Et donc, avec ce contexte, si on revient à la lecture de Josué 1, on se retrouve cette fois-ci avec une nouvelle génération qui, elle, dès sa naissance, a vu Dieu à l'œuvre, qui est extrêmement zélé à le suivre. Après un recensement, ils sont près de 600 000 qui sont prêts à servir l'Éternel, prêts à s'emparer de ce pays devant le Jourdain. Et il y a Josué. Josué et Caleb, deux personnes qui ont perdu 40 ans de leur vie à attendre que ceux de leur même génération disparaissent pour leur faute et que eux puissent enfin bénéficier des grâces de l'Éternel. Mettons-nous juste 30 secondes à la place de Josué. Ça fait 40 ans qu'il attend d'avoir enfin cette terre promise pour quelque chose que lui n'a pas fait. Il n'a pas péché contre l'Éternel, il a gardé confiance. Il a vu cette immense grappe de raisin à 20 ans et il a dû attendre ses 60 ans pour pouvoir en voir une nouvelle. Ça devait être terrible pour lui. Et pourtant, il a gardé confiance en l'Éternel parce qu'il savait qu'il le verrait, cette terre promise. Il ne l'a pas vu tout de suite, il a dû patienter, et l'Éternel a été bon durant ses 40 ans de désert, mais il était bon jusqu'au bout. Et on se retrouve donc avec ce passage au milieu qui parle particulièrement à Josué, ce passage en Josué 1, celle que je vous ai lu au début, où il insiste bien en reprenant « Prends courage et tiens bon ». On prend ces trois passages. Il y a 40 ans, les Israélites ont découvert la terre promise et ils ont préféré ne pas y aller. Aujourd'hui, Dieu rappelle, ou plutôt à l'époque, Dieu rappelle à Josué, prends courage et tiens bon. Aujourd'hui, tu vas pouvoir enfin conquérir ta terre promise. Il y a 40 ans, les Israélites n'ont pas obéi par manque de confiance. Mais aujourd'hui, simplement, Tiens bon, prends courage, parce que ta réussite dépend juste à quel point tu vas m'obéir, et moi je ferai le travail derrière pour t'offrir cette terre promise. Il y a 40 ans, les Israélites ont eu peur et ont refusé d'aller conquérir ce pays qui était pourtant merveilleux. Et verset 9, je t'ai donné cet ordre, prends courage et tiens bon, sous-entendu, n'aie pas peur, parce que Dieu lui-même sera à tes côtés dans la bataille. Et on retrouve finalement ce trio qu'on trouve souvent dans la Bible, avec une situation, le peuple ici qui est aux portes de la terre promise, une promesse de Dieu, celle qui est exprimée au verset 9 en disant « Dieu sera avec toi » et une condition « Je serai avec toi si tu m'obéis ». Alors vous allez me dire, c'est une très bonne introduction pour le livre de Josué. Maintenant, vous avez envie de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant. C'est un livre de conquête, je vous en ai parlé avant. On veut voir des héros, on veut voir des grands stratèges, on veut voir la célèbre prise de Jéricho. On veut voir toute cette partie-là qui finalement pourrait finalement nous trépigner un peu comme un bon récit. Mais si vous avez bien lu le chapitre 1, les choses les plus importantes se sont déjà passées. C'est pas la conquête qui est importante, c'est à quel point Dieu va se manifester dans cette conquête, à quel point Dieu va tout faire. Et je vous ai dit au début que j'ai appelé mon message à la conquête de la terre promise. Le vrai message, c'est plutôt Dieu conquiert la terre promise pour nous. Et on va le retrouver finalement dans tout le livre de Josué. Très nombreuses fois, on va retrouver simplement des passages où c'est Dieu qui dit « Je vais te donner ce pays, je vais t'offrir ses ennemis, je vais combattre pour toi ». C'est Dieu qui est acteur principal. En chapitre 5, on voit que c'est carrément le chef de l'armée de l'Éternel qui vient juste avant la bataille de Jéricho. Et c'est le chef de l'armée de l'Éternel qui s'assoit à côté de Josué. Ce n'est pas Josué le grand stratège, c'est Dieu lui-même qui vient. Chapitre 6, l'Éternel dit à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho, son roi et tous ses guerriers. » Ce n'est pas Josué qui combat, c'est l'Éternel lui-même qui lui offre ça sur un plateau. Et vous connaissez l'histoire de Jéricho, où finalement, il n'y a pas une grande bataille qui se passe. C'est simplement le peuple qui est amené à chanter et à tourner pendant 7 jours autour des murailles, et le dernier jour, les murailles s'écroulent. Quel grand stratège prendrait cette partie-là pour attaquer une ville ? Envoyer les musiciens à la place d'envoyer des catapultes et d'envoyer des engins de siège. Et chapitre 10, en une seule campagne, il vainquit tous les rois et s'empara de leur territoire, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour son peuple. Et donc finalement, quand on lit tout le livre de Josué, on s'attend à chercher des grands stratèges, des grands héros, mais en fait, le seul héros qu'on a, c'est Dieu. Lui seul est héros de cette histoire. Et on a souvent tendance à nous baser sur la culture grecque qu'on a. On cherche des demi-dieux, ou on cherche des héros comme Hercule qui sont capables de faire des exploits. Et dans nos situations aussi, on cherche parfois des sauveurs pour des raisons quelconques dans notre vie. Mais ce qu'on oublie, c'est que la Bible entière ne montre pas un homme, il montre juste Dieu qui fait tout et qui le fait pour nous. Et c'est assez déroutant de se dire que finalement, les rares fois où dans le livre de Josué, quelqu'un est cité, c'est plutôt pour sa désobéissance plutôt que sa bravoure. Les rares fois où une personne est citée, c'est plutôt pour montrer que cette personne n'a pas obéi à Dieu, et donc il s'est passé quelque chose de mal derrière. Et très nombreuses fois, quand il y a une bénédiction, c'est Dieu qui est à l'œuvre. La seule condition, c'est notre obéissance à ses commandements. Et après, en faisant confiance à Dieu, le peuple arrive à s'emparer de la terre promise. Si on ajoute aussi un peu dans cette partie-là, on peut aussi regarder la signification de Josué. En hébreu, Josué, ça veut dire l'Éternel sauve. On voit ici que Josué, c'est l'envoyé de Dieu pour montrer que Dieu sauve son peuple du désert. Mais si on creuse un petit peu plus, l'Éternel sauve, normalement vous connaissez une autre personne de la Bible qui a la même signification, qui est basé sur Yeshua. Je vous aide un petit peu, ça commence par un J aussi, ça a aussi 5 lettres, ça a 2 S. Et finalement, vous remarquez bien en fait qu'il y a une autre personne qui colle un peu à cet archétype, c'est celle de Jésus, qui veut dire aussi Dieu sauve, mais cette fois-ci, c'est pas juste nous sauver pour sortir d'un désert et trouver un pays, mais c'est pour nous sauver, nous. Et donc, mon message, où je l'ai appelé la conquête de la terre promise, puis Dieu à la conquête de notre terre promise, finalement, on pourrait l'ajouter en disant Jésus à la conquête de ta terre promise. Et c'est un peu ce qu'on va retrouver finalement dans la suite de la Bible. On va chercher à chaque fois un sauveur, et le seul qu'on nous donne, le seul héros qu'on nous donne, c'est Jésus. Et quand on relit l'histoire de Josué, malgré le fait que maintenant on ait 3400 ans d'histoire derrière nous après ce passage-là, quelque chose comme ça, parfois nous, on se comporte encore comme ces premiers Hébreux à la porte de la terre promise, et on se comporte un peu comme ces espions qui voient les fruits et finalement les refusent. Parfois ça peut être dans notre quotidien. On va à l'église le dimanche, dans des groupes de maison, dans des camps l'été, on va à des concerts. Et quand on revient à la maison, on retourne dans nos problèmes, nos situations compliquées, notre désert. Et là, on se dit en fait que tout ce qu'on a vécu à l'église ou ce qu'on a vécu durant l'été, on ne peut pas le remettre à Dieu. On se dit que c'est trop compliqué, que ça va nous faire trop travailler, que c'est impossible. Et finalement, on se punit nous-mêmes en restant dans notre désert, en restant dans nos situations compliquées, alors que Dieu veut juste nous en délivrer. Et c'est ce que rappelle le premier chapitre de Josué. Peut-être que ça fait 40 ans qu'on est dans un désert, mais Dieu veut nous sortir de ce désert. Et aujourd'hui encore, il veut nous accompagner. Et si on reprend le trio que je vous ai proposé, une situation, une promesse et une condition, bah la situation, c'est notre quotidien, nos problèmes. La promesse, c'est celle que Jésus offre, celle d'une vie éternelle auprès de lui, libérée de tous nos fardeaux. Et on a une seule condition pour atteindre cette partie-là, c'est juste venir à lui, et écouter sa parole et lui obéir. Si je conclurais ce message, peut-être qu'aujourd'hui on est dans un désert, et que c'est compliqué de s'en sortir. Et on comprend qu'il y aura probablement des combats pour s'en sortir. Mais même si c'est trop compliqué, on peut s'en remettre à Dieu, qui lui va nous dire simplement « Prends courage et tiens bon. » Simplement « Prends courage et tiens bon. » Dieu t'a donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Je vais prier pour terminer. Merci Seigneur parce que tu as toujours un plan pour nous, pour nous sauver de nous-mêmes, nous aider, quelle que soit la situation compliquée qu'on traverse. Et après tous les temps, l'été où on a pu croiser des amis, voir de la famille, vivre des choses géniales durant l'été, tu es là pour nous accueillir à la rentrée. Tu es là prêt à nous aider, à nous montrer que tu peux combattre les problèmes qu'on a, combattre pour nous les situations compliquées. Et je te remercie pour tes encouragements qu'on peut trouver dans ta parole. Amen.